il est 22h.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors il y a des émissions comme ça qui me semblent essentielles. Ce fut le cas hier avec Philippe Brenneau, puisque nous avons évoqué la construction de notre sexualité et nous avons eu de magnifiques témoignages et je vous en remercie. Aujourd'hui, je suis avec un autre Philippe. Je vais finir par croire que les meilleurs sont les hommes qui s'appellent Philippe. Enfin bref, je suis avec Philippe Arlin aujourd'hui et je vous propose qu'on comprenne mieux comment on peut se retrouver ou peut-être plutôt réussir à avoir une sexualité épanouie malgré des abus sexuels ou peut-être une sexualité toxique et comment on peut donc retrouver sa sexualité épanouie. Parce que, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est possible, mais évidemment, ça ne se fait pas aussi simplement qu'on pourrait le croire. Alors d'abord, il faut accepter de comprendre qu'on a été blessé, qu'on a été abîmé, voire détruit dans les profondeurs de sa chair. Parce que oui, la sexualité, c'est dans le corps que ça se passe, et je vous rappelle que le corps, lui, n'oublie rien. Mais c'est pas comme la tête. Le corps, il s'adapte parfois beaucoup plus vite, il peut renaître. Donc si vous avez envie de retrouver le chemin de votre sexualité, eh bien je vous invite à nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin.
Bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sexothérapeute et vous connaissez ce chemin que doivent faire ces femmes, ces hommes aussi, n'oublions pas.
Bien sûr. Hein,
qui ont été abusés dans l'enfance. Ou parfois qui ont eu une relation très toxique qui a abîmé la sexualité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà pour introduire ce sujet ?
Déjà, je devrais dire que si aujourd'hui j'ai encore une vocation dans mon métier de sexologue, c'est celle-là, aider l'autre à se réparer, parce que la sexualité, ça se construit, j'imagine que vous en avez parlé hier. Et effectivement, c'est pas quelque chose qui nous est livré, tout construit, il faut se l'approprier. Et c'est bien ce mot qui est important et dont on va parler aujourd'hui, parce que si quelqu'un vous la vole avant même que vous ayez le temps de vous l'approprier, elle n'est plus à vous. Et tout ce travail va être extrêmement compliqué de se redonner le droit d'avoir envie, de ne pas culpabiliser de cette envie, parce que malheureusement pour beaucoup de victimes, il y a cette culpabilité peut-être d'avoir joué un rôle dans ce qui s'est passé. Donc il y a énormément de choses à comprendre pour pouvoir reprendre ce qui nous a été volé et pouvoir se construire avec. Mais il y a l'abus et puis il y a aussi une sexualité qui ne s'est pas développée parce qu'elle a été révélée par l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime. Et on a l'impression que la sexualité, c'est ça, c'est l'autre. Et on n'a toujours pas sa sexualité en propre. Et on va voir que la démarche, même si elle ne travaille pas sur les mêmes origines, elle est commune, c'est s'approprier sa sexualité, son corps, ses désirs, assumer ses désirs et être capable du coup d'être dans une relation consentante et surtout une relation de respect et d'envie avec l'autre.
Vous parlez du corps, hein, vous aussi, et je le disais bien hein, dans l'introduction, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sexualité, c'est d'abord dans le corps
oui.
que ça se passe,
oui.
Même si bien sûr nos émotions, nos sentiments jouent leur rôle. Hein, on sait très bien que quand on est amoureux, on va pas faire l'amour de la même manière que quand on est indifférent. Mais c'est quand même dans le corps, et c'est une effraction dans le corps, hein, une sexualité abusive. Hein.
Et quelle que soit l'évolution de la tête, parce que la tête est un très gros organe sexuel, quelle que soit l'évolution de notre tête, c'est-à-dire même si on fait un travail, et Dieu sait que c'est important de se reconstruire après un abus, le corps, lui, n'aura pas forcément donné son autorisation. Il y a pour moi deux...
Oui, je suis d'accord. C'est important, ça. C'est
deux thérapies. Il faut que je puisse pardonner, me réapproprier. Mais il va falloir que je dialogue avec ce corps. Va falloir que je puisse entendre ses envies. Va falloir que je puisse me réconcilier avec ses désirs, sa manière de prendre du plaisir. Et si je ne le fais pas, ma tête peut aller très bien, mais mon corps me dira toujours la même chose. Il dira non à sa manière, oui à n'importe quoi.
On entend, enfin, mais je connais des femmes qui vont très bien, hein, mais qui ont totalement stoppé leur sexualité à cause justement d'abus qu'elles n'ont pas voulu travailler et pourquoi pas, c'est leur droit. Sauf que du coup, il n'y a plus de sexualité. Et vous avez raison, et je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. Peut-être qu'on n'en a pas tellement parlé de ça hier. C'est qu'il y a, le corps et la tête, et quand les deux ne sont pas reliés, la sexualité ne peut pas être harmonieuse.
Et souvent, malheureusement, à la suite d'abus, on a été obligé d'apprendre à se dissocier, justement, à couper notre tête de notre corps. Et on va avoir, contrairement peut-être à l'idée présupposée générale, on va avoir des gens qui vont avoir une sursexualité, voire qui ne vont pas se respecter dans leur sexualité, parce qu'ils sont coupés de ce qui se passe dans leur corps. Il n'y a plus de dialogue, donc ils sont capables de faire des choses contre eux-mêmes.
Ou alors, ils croient que c'est finalement pas très important tout ça,
voilà.
Ils se sont mis
ils
ça
se
dans
sont
la tête,
coupés d'eux.
Et donc puisque c'est pas très important, on peut faire l'amour n'importe comment, n'importe où, n'importe qui.
On n'entend pas l'impact de ces actions sur notre corps, parce qu'on a coupé le son, parce qu'il y a un moment, ce son, il a fait l'arsène, et quand ça fait l'arsène, ben on coupe le son, et le son reste coupé, et ce... Retrouver une sexualité épanouie, c'est accepter de remettre le son, c'est accepter de réécouter son corps. C'est un travail magnifique, mais très courageux.
Alors, il y a aussi, et je crois que c'est important, puisqu'on va essayer de donner le maximum d'informations, il y a aussi toutes ces personnes, alors des femmes peut-être plus que des hommes, mais des hommes aussi, qui ont été dans une relation où l'autre était très sexuel, et que pour faire plaisir, pour éviter qu'il aille voir ailleurs, etc., on a accepté une sexualité...
Ce consentement qui n'en est pas.
Beaucoup plus qu'on ne voudrait, et puis sans doute avec des pratiques qui n'étaient absolument pas les nôtres. Et là, il y a un moment... Quand la relation se termine, eh ben on est quand même un peu blessé. Et si on fait pas quelque chose pour d'abord réaliser qu'on a été blessé, on peut passer à côté d'une future sexualité qui pourrait aller mieux.
C'est une des raisons des pertes de désir dans le couple.
Souvent, oui.
C'est-à-dire qu'on a commencé sur les chapeaux de roue en laissant faire des choses qu'on n'avait pas forcément envie, mais on était amoureux ou amoureuse, mais ça touche plus facilement les femmes. On était amoureuse et à un moment, tout d'un coup, il y a un truc qui dit non. Il y a des choses qu'on peut plus faire, il y a des pratiques qui s'arrêtent, il y a un respect de nous-mêmes qui s'impose, mais du coup c'est complètement incompréhensible dans le cadre du couple. Donc on voit bien que le sujet est extrêmement vaste. Il y a l'abus, il y a ces choses innommables que trop de femmes ont subies, mais il y a aussi le fait de ne pas s'approprier tout simplement sa sexualité et ne pas la respecter en respectant son corps et ses envies.
Et alors, j'ai pas, il n'y a jamais eu une enquête qui a été faite là-dessus, mais je suis sûre que si on faisait cette enquête, est-ce que vous êtes en relation avec votre corps et vos vrais désirs, je suis pas sûre qu'on aurait 50% de oui.
Non, parce que notre cerveau va tellement vite qu'il censure avant même que l'on ait ressenti des plaisirs. Beaucoup de gens disent, oh, mais moi, telle zone, je sens rien, ou tel truc, je sens rien. Peut-être. La plupart du temps, c'est que c'est juste une information sensible que le cerveau ne veut pas gérer, donc il censure. Notre cerveau, il va très vite. Prendre l'exemple, je mets la main sur la cuisse de quelqu'un, la même pression, la même main, si vous voulez, si je suis l'ami, l'ennemi, le futur amant ou le truc, on va avoir 5 réactions différentes. Et là, c'est le cerveau qui décide. La sensation sur le corps est le même. Donc, c'est complexe. Et s'il n'y a pas un bon dialogue entre le haut et le bas... On n'y arrivera pas.
Eh ben, on va essayer de le créer, ce dialogue entre le haut
oui,
et le bas.
On est là pour ça.
Sur Sud Radio 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio, à Morlaix, en DAB+.
Sud Radio.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9. Identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détails Nissan.fr. Pensez à covoiturer.
Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye Sud Radio. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute. Nous évoquons justement notre sexualité qui parfois est bloquée par de mauvaises relations. Et merci Gaëlle d'être avec nous et on vous écoute. Allez-y, je vous en prie.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe.
Bonjour Gaëlle.
Alors, les premiers mots qui me sont venus quand j'ai lu le sujet, c'était honte et culpabilité. Donc moi, la façon dont j'ai vécu ma sexualité au début était vraiment associée au plaisir coupable. C'est-à-dire que j'avais enfermé ma sexualité dans un monde qui ne concernait que moi. Et qui ne se jouait que de moi à moi. Donc à travers mes fantasmes, à travers de la masturbation compulsive, à travers des addictions au porno, etc. etc. Et du coup, pour moi, ce qui m'a aidé par la suite, c'était vraiment de prendre conscience de ma souffrance et de l'accueillir et de lui donner un espace pour avoir le courage suffisant d'aller à ma rencontre. Et du coup, c'est passé pour moi par une réappropriation, pour rebondir ce que vous disiez d'ailleurs, de mon propre corps. Et c'est passé par un chemin conscient à travers des pratiques qui m'ont appelé, notamment le tantra, en autre. On va dire, remettre un côté joyeux, un côté lumineux sur ce que j'avais enterré dans un endroit très sombre.
Excusez-moi, je vous coupe, mais c'est important que je le dise pour ceux qui nous écoutent. Vous parlez de manière très claire de ce moment de souffrance et de ce que vous ressentiez, mais je pense que ça n'était pas très clair à cette époque-là. C'était certainement très confus. Et vous dites que vous avez eu le courage donc d'accueillir votre souffrance. Ça, je pense que ça a dû prendre pas mal de temps. Et entre le moment où on souffre et le moment où on arrive à réaliser qu'on souffre dans sa sexualité, c'est parfois des années.
C'est exactement ça, oui, je parle un petit peu.
Oui, non, mais c'est important. Excusez-moi Gaëlle, mais c'est important parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans la souffrance et qui se disent, et qui du coup ne peuvent pas profiter de votre témoignage, alors que je crois que maintenant, ils vont peut-être vous écouter avec leurs deux oreilles.
Oui, tout à fait. Et pour être extrêmement concret, ça m'a pris, moi, plus de 45 ans, quoi, à peu près. Voilà. C'est-à-dire, enfin, c'est à l'âge de 45
ans. Ça, c'est parce que vous avez... D'accord, parce que si vous aviez rencontré Philippe Arlin, vous n'auriez pas mis 45 ans pour aller mieux.
Non. Pour être plus sérieux, en tout cas, j'espère que j'arrive à aider les gens que j'aide, mais pour être plus sérieux, je pense que, et je rejoins ce que dit Brigitte, c'est que non seulement on n'est pas conscient de la souffrance, mais on n'est même pas conscient que cette souffrance est liée aussi à notre sexualité. C'est-à-dire qu'on a même l'impression que notre sexualité est une réponse à notre souffrance, alors qu'elle est quelque part une des causes de notre souffrance. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'il y a un mécanisme addictif, hein, puisque là, vous étiez clairement là-dedans, une addiction qui consiste à se faire du mal, mais on ne sait plus pourquoi on se fait du mal, et on finit même par croire, vous savez, c'est un peu quand on boit pour s'anesthésier, on croit que l'alcool va devenir notre ami en nous aidant à éviter les idées noires. Dans la réalité des faits, on le sait très bien, l'alcool est notre ennemi, et votre sexualité... quelque part en ne l'acceptant pas, parce qu'elle allait dans des zones de vous-même que vous gériez pas, ben c'est là que c'est extrêmement complexe. C'est que à la fois vous étiez en souffrance, mais pas forcément conscient que cette souffrance était liée à la réponse que vous apportiez à votre propre ressenti de souffrance.
Tout à fait. C'est-à-dire que le remède que j'avais même pas conscience que j'apportais un remède. En fait.
Moi.
J'avais pas conscience que j'apportais un remède.
C'est un anesthésiant.
Ouais, c'est un anesthésiant et j'ai vécu plusieurs expériences de dissociation d'ailleurs hein, pour rebondir sur ce que vous évoquiez. Et j'ai compris tout ça bien après. Et ça m'a mis des années effectivement à ce que que je fasse tous les liens.
Vous étiez très jeune, j'imagine.
Quand ça a commencé,
les abus.
Oui, ben c'est, j'avais 7-8 ans en fait. Voilà. Oui. J'avais 7-8 ans et j'en avais pas conscience, donc c'était enterré très profond. C'était,
oui, oui, bien sûr, il y avait un refoulement qui fait que vous ne savez, enfin, au fond, vous en avez pris conscience, j'imagine, bien plus tard.
Oui, à l'âge de 47 ans.
Ouais, voilà. C'est pas un âge où on est censé découvrir la sexualité.
Non, vraiment pas.
Rien n'est prêt. Rien n'est prêt dans notre corps, rien n'est prêt dans notre tête. Ça fait exploser énormément de choses. Et oui, malheureusement, des fois, il faut 45 ans pour arriver à retrouver les morceaux et à se dire, ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi, qu'est-ce que ça fout là ? Et ne pas avoir honte de ce qui est à soi.
Oui, c'est le mot le plus... C'est ce qui évoque le plus mon chemin, moi. C'est vraiment, passer de la honte à l'amour, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire éclairer avec un autre regard des parts de moi que je jugeais méprisables, infâmes, enfin tous les mots. Oui.
Et je me permets aussi, vous avez parlé au départ de votre témoignage de plaisir coupable. Et je me permets aussi de dire, si vous allez voir quelqu'un, c'est un thérapeute, et qui pense que votre plaisir coupable est dû peut-être à votre éducation, méfiez-vous, parce que c'est souvent un plaisir coupable dû au contraire à des abus et pas à son éducation.
J'aurais tendance à dire changer de thérapeute.
Voilà, excusez-moi, mais c'est
mais
important.
Vous avez raison, Brigitte.
C'est important
parce
aussi
pas,
parce que.
C'est
parce
pas
que
ça.
Oui, un plaisir coupable, normalement, ça va être deux mots qui vont pas très bien ensemble.
Non, puis celui qui détermine la culpabilité, c'est nous, en fonction de nos expériences et de nos connaissances. Si ce plaisir il arrive sur quelqu'un de vierge d'expérience en tout cas, il y aura pas de culpabilité, il y aura une curiosité à la découverte. S'il y a culpabilité, c'est que ça renvoie à quelque chose que l'on sait ou qu'on a déjà expérimenté,
c'est ça.
De manière fausse ou peu importe.
On peut
mais
avoir
voilà.
un plaisir honteux parce
oui,
que
oui ou caché ou tabou,
voilà,
mais pas coupable.
C'est important. Hein, oui. Les mots sont tellement
parce
importants.
Parce que la culpabilité, ça parle de l'autre.
Enfin, en tout cas, ça parle de quelque chose
qu'on a rapport aux autres.
Oui, c'est ça. Et vous êtes. En tout cas, Gaëlle, quelle a été finalement pour vous la première chose qui vous a aidé?
C'est encore une fois, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est mon niveau de souffrance. C'est-à-dire que ce qui m'a aidé à prendre des décisions et à aller soulever le couvercle, c'est mon niveau de souffrance qui devenait en fait insoutenable. Et ma déconnexion, je sentais que j'avais, en plus, j'avais la sensation d'avoir une énergie sexuelle plutôt importante, d'avoir un intérêt à cet endroit-là. Et je voyais à quel point ce que je vivais concrètement était déconnecté de mon monde intérieur. Et ça me mettait dans un état de tension dans mon couple et à l'intérieur de moi qui devenait ingérable. Et donc ce niveau de souffrance au quotidien est devenu à un moment donné tellement insoutenable. Et de ce point de vue-là, du coup, je remercie cette souffrance parce que c'est elle qui a fait que, je n'avais pas d'autre choix, d'une certaine façon, que d'y aller, quoi.
Alors, oui, encore une fois, merci de ce message que vous le transmettez à ceux qui nous écoutent. C'est pas normal d'avoir un tel niveau de souffrance par rapport à sa sexualité.
Mmh. Oui.
Et il y a autre chose que vous dites, Gaëlle, qui peut être très utile pour nos auditeurs. Cette impression d'avoir une sursexualité, vous n'aviez pas de sursexualité. Vous avez été en contact avec la sexualité beaucoup trop tôt. Donc forcément, lui, le cerveau, quand il expérimente un truc qu'il comprend pas, il a envie d'y retourner. Il a envie d'aller voir, il a envie de creuser. Sauf que normalement, c'est pas à 7 ans qu'on est censé être en contact avec ça, parce que justement, c'est pas à cet âge-là qu'on est censé l'expérimenter et le vivre. Donc non, vous n'aviez pas une sursexualité. Vous aviez juste une conscience de la sexualité beaucoup trop jeune, et malheureusement, pas décidé par vous-même, subi, et je tiens à dire aux auditeurs qui se retrouvent avec ce genre de sentiment d'avoir toujours été très sexués, de réfléchir s'il n'y a pas eu un moment où ils ont été mis en contact avec la sexualité bien trop tôt.
Tout à fait.
Et c'est d'ailleurs toute la question qu'on peut se poser sur les jeunes, très jeunes enfants qui voient des images pornographiques. C'est cette question-là, évidemment que ça soulève. Et n'ayons pas peur de le dire. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci.
Sud Radio Corté.
99.6.
Sud Radio.
que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien.
Laë Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Philippe Arlin, écoutez. Comment on fait pour écouter? C'est pas une chose aussi aisée qu'on pourrait le croire. Hein. On peut entendre le bavardage de l'autre, mais l'écouter vraiment, ça demande quand même un certain talent. Et on va justement, je vais justement dans ce Love Conseil développer un peu ça. Ça demande d'abord de prendre conscience de ses réactions et de savoir les moduler. Par exemple, notre envie d'interrompre pour se justifier, c'est une réaction très naturelle, mais qui nuit à l'écoute. Quand on est avec son partenaire qui nous parle, on aura tendance naturellement à l'interrompre, hein, soit pour se dire « mais non, c'est pas vrai » ou pour se justifier. Vous êtes d'accord, hein ?
Ah, mais oui, malheureusement, oui.
Alors donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Il faut arriver à se calmer et à ne pas interrompre de l'autre. De même, on écoute, mais on ne juge pas et on n'interprète pas. On écoute, hein, et si on n'est pas sûr de ce qu'on a compris, eh bien, on reformule ce que nous a dit notre partenaire afin d'être sûr d'avoir bien compris ce qu'il nous a dit.
Mais Brigitte, derrière, faut pas avoir peur.
D'écouter.
Ben oui. souvent, pourquoi on n'écoute pas ? C'est parce qu'on se croit qu'on est accusé, on croit qu'on est remis en cause, on croit, enfin, on anticipe ce que dit l'autre. Donc forcément, on n'est plus disponible pour le recevoir.
Mais exactement. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Il y a deux personnes qui ne ressentent pas les mêmes choses, qui ne pensent pas de la même manière, qui ont deux vérités différentes. Et voilà tout. Et c'est pas une vérité qui est mieux que l'autre. C'est deux vérités et il faut arriver à les adapter. Et pour bien écouter, donc, il faut être très disponible. Moi, je conseille toujours, quand on écoute quelqu'un, d'éviter de regarder son téléphone ou de faire quoi que ce soit à côté, même si c'est a priori anodin, parce que ça veut bien dire qu'on n'est pas vraiment à l'écoute de l'autre. Et puis, voilà. Après, ça s'apprend, mais tout le monde peut y arriver, normalement.
Je conseille même de se tenir la main.
Oui, c'est très juste. Ça donne un lien plus fort.
Ça crée une vérité. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire quand on tient la main de l'autre.
Oui, oui, ça évite de la petite réflexion.
Parce que il y a toujours, il faut, puisqu'on est en train de parler justement de la tête et du corps, eh bien, là, c'est pareil. Si je vous dis je t'aime avec mon corps qui vous transmet le message de l'inverse, avec mes yeux fermés, avec quelque chose d'agressif dans le regard, vous n'entendez pas le je t'aime, et heureusement d'ailleurs. Vous entendez ce que j'ai émis avec mon corps. Et à l'inverse, si je vous dis que je vous déteste mais que je suis en train de baver devant vous, vous allez pas être extrêmement effrayé.
Pas très heureuse que vous baviez
non,
sur moi.
Hein. Mais je fais attention, je m'essuie maintenant. Et ça, il faut pas oublier que ce qu'on va transmettre avec notre corps, nos attitudes, et donc ce geste de la main qui est un geste de bienveillance, de douceur, qui maintient le lien, va dire beaucoup plus à votre cerveau que le ton que vous allez employer, que les mots que vous allez employer. Donc n'oubliez jamais qu'il y a deux dialogues à avoir. Donc si effectivement vous écoutez quelqu'un en regardant votre téléphone, votre corps dit, tu sais, là je suis en train de faire autre chose, tu me déranges.
Absolument. Et puis, faut bien connaître aussi le fait que l'intonation est très très importante. Moi, qui parle beaucoup à mes chiens et mes chiens m'écoutent beaucoup, l'intonation que je mets dans la voix, il fait qu'ils comprennent parfaitement bien ce que je leur dis.
C'est
toujours pareil. Si vous avez pas envie de dire quelque chose, mais que vous le dites parce que vous pensez qu'il faut le dire, ça sera pas bon parce que votre intonation sera pas juste.
Donc faut vraiment se rappeler que le dialogue, c'est pas juste des mots, c'est pas, il y a pas que les oreilles qui sont mises en question, c'est une réceptivité, et encore une fois, pour rester sur le sujet d'aujourd'hui, c'est la réceptivité de tout le corps, et c'est ça qui va faire qu'on arrive à être dans le dialogue.
Marlène, on vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe Arnaud.
Bonjour Marlène.
Merci de me recevoir. Donc moi j'ai été victime d'inceste, ça a commencé avant 5 ans je pense, enfin, c'est ce que je suis en train de découvrir encore actuellement. D'ailleurs j'ai été choquée au mois de février d'apprendre que mon papa avait vu et que finalement c'est allé beaucoup plus loin, enfin bon certaines choses, et comme le corps réagit si bien, ben, aujourd'hui je suis en fauteuil roulant parce que j'ai des problèmes de santé, j'ai fait une chute et bon voilà. Et comme quoi le corps parlera toujours quand la tête elle bloque. Et donc moi pour me réapproprier.
Vous voulez dire que vous avez fait cette chute parce que vous tout d'un coup vous découvrez que votre père avait vu ou avait su et ça a
ça
provoqué une chute, c'est ça?
C'est passé 3 mois après, en fait, exactement. Et ouais, le 9 février, à peu près, j'ai eu mon père. Et le 9 mai, j'ai eu la chute. Et c'est parce que ça m'a tellement ébranlée dans mon corps.
Ben, bien sûr,
que
bien sûr.
Ça a été appris, en fait. Et bon, j'ai des soucis de santé aussi. Hein, mais j'ai fait une grave anorexie. J'en ai des conséquences encore aujourd'hui.
Ben, ces problèmes de santé, ben, vous savez aussi d'où ils viennent.
Ouais. Enfin, bon. Et je me suis cassé quoi? Le grand trocompteur. C'est le grand fessier, la hanche, c'est pas anodin non plus, quoi. Je suis tombée sur le cul.
La hanche gauche, on imagine?
Oui, c'est ça.
Comme par hasard.
Oui. Enfin, et donc, se réapproprier la sexualité, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on n'a pas qu'une sexualité, mais des sexualités, que ça dépend beaucoup de son partenaire. Et en vous écoutant, en fait, j'ai eu plein de déclics. Je me suis dit, mon premier rapport, j'ai eu à 14 ans et demi, ce qui est très jeune quand même. Mmh. Mais je crois que c'était pour me venger sur mon père. Je viens de le comprendre, en fait, de le réaliser il y a quelques minutes à l'antenne.
Vous venger ou fuir? Vous voyez, ça peut...
Mais en tout cas, c'était lié à...
C'est fort probable.
Parce que là, je lui dis tout de suite et je lui dis, tu vois, maintenant je suis plus vierge.
Oui.
Et j'ai une colère. Enfin bon, et donc avec mon mari, hein, que ça fait 13 ans, donc moi j'ai été divorcée, dépaxée, remariée. Donc là, ça fait 13 ans, c'est la première fois que ça dure si longtemps. Au départ, j'ai accepté des choses que je n'accepte plus aujourd'hui. Alors pour lui, ça a été difficile parce qu'il se dit, je comprends pas, au début de notre relation, la sexualité, t'étais beaucoup plus ouverte et tout ça. Et en fait, c'est parce que, comme j'avais peur de le perdre, eh ben, j'ai accepté des pratiques que je ne tolère pas aujourd'hui, que je ne veux pas. Et ça, c'est parce qu'au fur et à mesure, en fait, et puis...
Oui, vous avez appris à vous respecter. Oui.
Aussi. Mais j'utilise aussi la sexualité comme punition.
Alors, je devrais dire, vous avez appris à respecter votre corps, j'aurais dû dire.
J'apprends, on va dire, à dire non. On dit toujours qu'il faut savoir dire oui, ben moi j'apprends à dire non. Et à dire non, je veux pas comme ça. Et en fait, apprendre à dire ce que je veux et ce qui me fait du bien et ce que je n'accepte pas. Quitte à perdre ou ce que ça vexe. Mais alors, si ma sexualité, je lui dis en fait, en comprenant mon histoire, il faut que tu comprennes maintenant qu'il y a des choses que je n'arrive pas. Lui, il est très sexuel. Je sais pas, on tombe pas par hasard, je pense, avec les partenaires. Il est très sexuel, en fait, la sexualité, on va dire que c'est ce qui est le plus important pour lui, avant manger même peut-être. Et pour lui, il n'y a que ça qui fait du bien, en fait. Des fois, j'ai l'impression que je suis aussi un petit peu un exécutoire, un moyen pour lui de trouver la seule source de plaisir parfois qu'il a, parce que je suis quelqu'un qui travaille énormément. Et en fait, moi, je n'y arrive pas à ce que la sexualité soit un jeu. J'y arrive pas. Pour moi, c'est pas un jeu. Pour moi, c'est sacré, c'est à respecter, en fait. Donc, je lui demande d'aller avec beaucoup de douceur. Et au départ, il a très mal pris. On a eu là des passages où ça a été très compliqué. Et là, de toute façon, en étant fauteuil roulant, bah, il est obligé de... C'est difficile, on est obligé de se réapproprier aussi autrement. Et il y a quelque chose donc qui m'aide beaucoup, c'est le seul, en fait, qui peut me masser. Donc ça, ça a été très compliqué. Mais en fait, maintenant, chaque fois... Ça doit commencer quand même par un petit massage pour que je puisse en fait rentrer dans moi et lâcher. Et il y a un truc qui m'a énormément aidée, et merci du fond du cœur Brigitte, c'est grâce à vous. C'est qu'avant, il y avait, durant l'émission, on testait des jouets en fait.
Oui.
Et j'avais été appelée, et je me disais, mais moi ça ne me correspond pas du tout, et tout, ça va pas, et tout. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, alors ce jour-là, il y a dû avoir quelque chose. J'avais dit, ok, on va essayer, et j'avais choisi le Womanizer. Et ça a été une révélation pour moi, en fait. Parce que comme j'ai dû le tester, j'ai dû jouer, j'ai dû faire le jeu pour aller jusqu'au bout. Donc, ça a été un challenge, quand même. Et en fait, j'ai réussi à ressentir un plaisir, parce que je suis plus, en fait, clitoridienne que vaginale. D'ailleurs, ça me brûle beaucoup. Et comme j'ai beaucoup d'inflammation, j'ai un système inflammatoire et d'immunité, j'ai souvent, en fait, la pénétration qui peut être douloureuse. Et donc, je suis plus clitoridienne. Et le Womanizer, et maintenant, en fait, j'arrive. Alors que mon mari m'avait offert des sextoys, c'est la première fois parce que je n'avais jamais.
Oui, mais vous savez, Marlène, je repense à un moment hier où j'ai donné l'autorisation à quelqu'un. Et je crois que c'est d'une certaine manière, quand je vous demande d'aller de tester ce jouet, vous le faites et il y a la tête qui lâche puisqu'il y a une autorisation et le corps peut à ce moment-là ressentir.
C'est vraiment ça.
C'est fou.
C'est comment détourner la tête. C'est-à-dire que là, quand vous avez testé, vous avez presque oublié que c'était un jouet pour donner du plaisir. Vous avez testé un jouet, donc vous avez joué le jeu, c'est le moment de dire.
Vous avez été une bonne élève.
Voilà. Et du coup, il n'y a pas eu l'appréhension du cerveau, l'appréhension de la conscience. Le cerveau s'est laissé faire, il s'est fait avoir, parce que là, le corps avait un truc à dire, et là, il a été obligé de le laisser dire.
D'avoir un lâcher. Mais par contre, oui. Je ne suis pas arrivée, dès que je commence, en fait, le Womanizer, je pars très très vite, et j'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est comme si j'allais mourir, en fait.
Oui, alors...
J'arrive pas à me laisser aller jusqu'au plaisir. Il faut arrêter avant, sinon j'ai l'impression que je vais mourir. Et que c'est pas possible. Bah,
pour le moment, respectez ça, pour le moment. C'est des choses qui se construisent étape après étape. Je pense que ça peut être bien que vous vous fassiez accompagner par rapport à tout ça, si vous le souhaitez, pour pouvoir franchir. Mais bon, bah voilà, pour le moment, accueillez ce qui est possible, accueillez le plaisir que vous arrivez à prendre, et c'est déjà merveilleux.
Et puis vous dites
et
une chose...
j'arrive à l'introduire, en fait, avec dans la, quand j'ai un rapport, quand je fais de l'amour, je vais le dire, avec mon mari, j'arrive, en fait, à avoir, en fait, à prendre le jouet. Et ça m'aide énormément. Alors qu'avant, c'était impossible. Je me braquais, même quand lui m'avait proposé, mais je m'étais braquée, quoi.
Mais Marlène, vous avez dit quelque chose d'essentiel que je suis obligée de souligner parce que ça peut peut-être vous aider. Vous dites, il faut que j'arrête parce que sinon j'ai l'impression que je vais mourir. C'est quelque chose qui parle de votre, de vos abus et de votre inceste. Il faut que vous compreniez qu'il y a une peur terrible qui a été vécue quand vous étiez toute petite. Et qui ressurgit à ce moment où vous devriez lâcher pour avoir l'orgasme et que vous pouvez pas lâcher parce que c'est cette peur terrible qui revient. Et ça.
Ça pourrait recommencer.
Et ça, sincèrement, avec un bon thérapeute, vous pourriez arriver à lâcher.
J'aimerais, mais trouvez-moi un bon thérapeute. Je veux bien, même par visio, donnez-moi un bon thérapeute.
Et ben,
voyez, j'en ai fait plein. Et...
voyez avec Philippe Arlin, éventuellement.
Avec grande joie. Oui, je veux bien.
Essayez, vous verrez bien si ça vous plaît pas.
Vous
si
voulez, Philippe?
Ah, mais moi, j'ai aucun souci. Et je l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être la plus belle raison et la plus belle chance que j'ai de faire ce métier.
Mais pleurer, ça libérera une émotion.
C'est mon retour de Jupiter. Et c'est une belle chose, je trouve. Et il y a le Womanizer, le nouveau, qui est sorti. Bah, je vais peut-être économiser, c'est dur financièrement pour me l'offrir, parce qu'il paraît que c'est révolutionnaire.
Eh ben, ça fait une échéance, et d'ici l'échéance, je vais essayer de vous aider.
Oui, je laisse mes coordonnées, merci du fond du cœur.
Non, mais je vous en prie.
Savoir.
Non, mais vous savez, si on continue... tous les jours à écouter et à aider les gens à aller mieux dans leur sexualité.
Vous êtes une fée.
Non, je ne suis pas. Je suis pas une fée.
La fée braguette magique, on l'appelle.
Ouais. Oui.
Merci Marlène.
Sud Radio Prades.
105.7.
Sud Radio.
Another day for you and me in paradise.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Philippe Arlin, on essaye de comprendre pourquoi par moment la sexualité ne fonctionne pas. Et évidemment, il y a souvent derrière des abus sexuels. Et on va continuer avec Marie-Lou qui nous rejoint. Bonjour Marie-Lou.
Oui, bonjour.
Bonjour Marie-Lou.
Bonjour, bonjour. Merci de prendre mon témoignage.
Je vous en prie.
Il va rejoindre un peu celui de Marlène, la précédente auditrice. J'ai été victime d'inceste également de la part de mon père à l'aube de mes 15 ans. Et ça a effectivement beaucoup, beaucoup fait. En fait, tout mon corps était totalement, comment dirais-je, j'étais détachée de mon corps.
Mmh. Dissociée, oui.
Complètement dissociée. Je ne voulais pas avoir d'enfant. La sexualité ne m'intéressait pas. J'étais vierge au moment des faits. Et j'ai dû faire vraiment beaucoup de travail personnel pour même réussir à accepter d'avoir un enfant.
Votre père vous a pénétré, parce que quand on parle d'abus, c'est pas toujours avec pénétration, mais dans votre cas, il a été jusqu'au bout.
Oui, oui. Il voulait être le premier. C'était ses mots. Il voulait être le premier et j'étais totalement tétanisée, effectivement, parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et tout en même temps, j'avais peur, quoi. Et c'est vrai que, tout comme l'a dit le premier auditeur, d'ailleurs Gaël, il reste un sentiment horrible qui se bat. Les deux sentiments, c'est bien la honte et la culpabilité. Mmh. Et c'est vraiment très difficile de sortir de ces deux choses.
Ce qui est terrible quand il y a de la culpabilité, et ce qui est très fréquent, alors que, encore une fois, vous n'êtes que victime, mais c'est que, du coup, vous n'osez pas en parler à personne. Puisque oui. Vous vous sentez coupable.
Exactement.
Et du coup, vous portez ça toute seule, à l'âge de même pas 15 ans, c'est horrible.
C'est vrai, c'est horrible, ça isole beaucoup.
Mais oui.
C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais mon témoignage, il est plus sur le fait qu'on peut quand même. Je suis un peu émue, excusez-moi.
Mais je vous en prie, Marie-Lou. On peut quand même aller mieux, c'est ce que vous voulez dire?
Tout à fait. On peut aller mieux.
Qu'est-ce qui tout d'un coup justement vous fait rentrer dans cette émotion si forte? Qu'est-ce que vous nous diriez? Parce que ça c'est important, que tout d'un coup il y a une sorte de flashback émotionnel qui vous a submergé.
Tout à fait, merci Brigitte, c'est l'isolement.
Oui.
L'isolement. C'est isolé d'avoir ça en soi et puis on peut dire à personne parce que personne ne croit.
Ouais, on se sent sale.
Oui. On s'en sale et puis personne ne croit. La famille ne croit pas. Et puis du coup, on s'isole vraiment. J'ai cru que j'aurais jamais d'enfant dans ma vie. Et puis en fait, quand j'ai eu l'âge de prendre une thérapie personnelle, j'ai pensé à peu près quand j'avais 20 ans, 22 ans, avec mes petits salaires d'étudiante. Et j'ai commencé à consulter, je ne sais pas pour quelle raison, mais un psychanalyste, pourquoi? Je ne sais pas. Ça m'avait été conseillé puisque j'étais heureusement aidée par l'aide sociale à l'enfance. Mm-hmm. Parce que face à ces abus, il a fallu que je me sauve, que je sauve ma peau. Et donc, grâce à l'aide sociale à l'enfance, effectivement, j'ai eu la
vous avez fui. Vous avez fui le domicile parental, évidemment.
Oui, mm-hmm. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est l'isolement, c'est quelque chose qui reste énormément, même après.
Oui, oui, on entend votre souffrance, Marie-Lou. Et peut-être que ça sera intéressant de travailler sur cette partie de vous, là, qui est encore terriblement blessée. Parce que c'est vrai que de 15 ans à 20 ans, être seul, alors que c'est un moment où on a besoin de repères, on a besoin de modèles pour se construire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y a quelque part, peut-être, un fossé entre la jeune fille de 15 ans que vous étiez et la femme que vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est encore un abîme. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, vous avez raison. Parce qu'on... Moi, je ne pensais pas que j'allais avoir cette émotion-là.
Mais vous savez, en volant votre sexualité, il a volé bien plus qu'un accès à votre corps. Il a volé votre développement de femme, il a volé votre socialisation, il vous a isolé. C'est une effraction sans limite, c'est-à-dire que à l'âge où vous l'avez subi, on peut plus aller vers les autres, on peut plus regarder les choses de la même manière, on se sent je ne parlerai pas à votre place, mais c'est horrible ce qui est ressenti dans ces moments-là. Et donc, bien sûr, ça n'a pas joué que sur votre sexualité. Ça a joué sur votre rapport en tant que femme vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de votre corps, de la maternité. Et il vous a enfermé, isolé. Je pense que reste à faire, c'est de casser cette cage.
Oui, je crois, Marie-Lou, qu'il faut que vous compreniez une chose. Ça vous serait arrivé quand vous aviez 5-6 ans, vous l'auriez mis de côté et vous seriez devenue une adolescente, certainement peut-être boulimique, anorexique ou je ne sais quoi. Mais vous auriez pu grandir en tant qu'adolescente et passer à l'étape d'adulte. Là, vous n'avez pas mis ça de côté parce que vous aviez l'âge où on met pas les choses de côté, on réalise ce qui nous arrive. Et du coup, ça vous a isolé. Vous voyez ce qui est important. Et c'est vrai que votre témoignage est très différent de quelqu'un qui aurait été abusé, incestué par son père très jeune. Et c'est ça que peut-être vous ne vous êtes pas encore pardonné.
Et je me permets de revenir sur la phrase qu'il a prononcée quand il dit « je voulais être le premier ». Dans la réalité des faits, il dit « je voulais être le seul ».
Oui, c'est vrai. Moi, c'est très juste.
Il vous a privé d'un rapport libre aux hommes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, docteur Arlin, c'est vrai. Je n'avais pas vu les choses comme ça, même si je combats...
C'est ça, l'isolement. C'est l'isolement. Il vous a empêché d'avoir accès aux autres hommes. C'est pas je serai le premier, c'est je serai le seul. C'est monstrueux.
C'est vrai, c'est monstrueux. Mais on peut s'en sortir quand même.
Bien sûr.
On peut réussir, mais c'est long, c'est un vrai travail. C'est vrai que cette émission, elle est chouette parce que elle permet à différentes personnes de t'apporter leur témoignage avec émotion, et même si c'est pas les mêmes. Moi, j'ai réussi quand même à avoir des enfants, à avoir un mari, d'autres quand même hommes. Mais le seul homme avec lequel je m'étais confiée à mon mari, il n'y a pas eu de souci, il a accueilli ça. Et puis j'ai rencontré un autre homme, et quand je lui ai raconté, eh bien cet homme, en fait, je ne l'ai pas raconté tout de suite, hein, je l'ai raconté au bout d'un an, une histoire, rapidement, sans donner de détails. Et à partir de là, il a changé son attitude dans nos relations sexuelles. Et c'est comme s'il avait peur de me toucher. Voilà, un peu comme...
Mais parce qu'il avait peur de vous faire du mal, parce que c'était certainement un homme
ça l'a dérouté.
Un peu trop sensible, ou ça a touché une part de lui qu'il ne connaissait pas. Mais c'est toujours la même chose, Marie-Lou, c'est que quand on a des choses lourdes en soi, ben parfois les gens ne sont pas capables de les accueillir parce qu'ils sont pas assez forts. Hein. Mais vous savez, Marie-Lou, votre blessure, qui est une forte blessure, elle peut devenir une force, et vous êtes sur le chemin, je crois.
J'espère.
Ben, je crois, oui, parce que d'abord vous avez pris la parole et
vous avez pu en parler.
Vous en avez parlé. Vous avez laissé l'émotion sortir, et ça veut dire que vous êtes en relation avec vos émotions. Et c'est ça l'essentiel, parce que c'est par nos émotions qu'on grandit et qu'on arrive à continuer le chemin.
Merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous surtout, parce que c'est un témoignage comme ça qui parfois nous fait prendre conscience. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, et je trouve que le témoignage de Marie-Lou est important, je trouve extraordinaire parce que c'est vrai qu'a priori, on penserait que c'est moins grave à cet âge-là. Et en fait, c'est différent, mais c'est peut-être même presque... Enfin, c'est aussi grave, quoi. Quel que soit l'âge, en fait.
Ouais, ouais. Ça va avoir des conséquences différentes, mais c'est un drame dans tous les cas, franchement.
Oui, c'est...
Et surtout cette dimension d'inceste, ça vient rajouter quelque chose. C'est pas un inconnu. Voilà, c'est notre père.
On sait de toute façon que la majorité des abus sur les enfants et sur les gens de moins de 15 ans, hein, pour rappeler la loi.
C'est dans la famille.
C'est dans la famille, ou alors c'est l'ami, le bon ami de la famille.
Le bon ami, c'est l'oncle, le grand-père, le père.
Voilà, c'est toujours quelqu'un avec qui l'enfant a un sentiment d'affection. Hein, donc c'est pour ça que c'est aussi dramatique. Allez, on laisse la place aux infos et on se retrouve dans la deuxième heure avec vous, bien sûr, sur Sud Radio.
Sud Radio Nice.
97.9.
Sud Radio.
Marbres et faïences, au pied d'une église, l'horrible silence des larmes et du lys. Soudain il commence, cet homme en costume, quelques pas de danse à titre posthume. La vie se rallume, il tourne, il tourne et il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne, il tourne et il danse, et c'est encore de la vie. Ayons parfois l'élégance de tournoyer sur les parvis. Alors lentement, d'autres l'accompagnent. Il tient comme avant l'absente compagne. Dans ses mouvements, tous deux se rejoignent. L'espace d'un instant, c'est la vie qui gagne. C'est la vie qui gagne. Il tourne, il tourne et il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne, il tourne et il danse, et c'est encore de la vie. Ayant parfois l'arrogance de tournoyer sur les parvis. Sur les pavés du parvis, dans ses bras il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne et tourne et il danse, et c'est encore de la vie. Ayant parfois l'arrogance de tournoyer sur les parvis. Il tourne et tourne et il danse, et c'est encore.
Pas. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio.
when we first met. I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Keeps turning and turning and turning.